Même les Sioux se mettent dans la lutte contre la prohibition. Alors, du coup, qu'est-ce que ça prévoit, cette proposition? Eh bien, tout simplement, ça établit un mécanisme officiel de production de cannabis qui serait séparé du médical, qui séparait, pardon, le médical du loisir, disent-ils, et qui pourrait distribuer du cannabis à toute personne de 21 ans et plus, et pas que aux membres de la tribu. Voilà. La mesure autorise aussi un endroit où le cannabis peut être consommé en toute sécurité et légalement, comme dans un bar. Voilà. Et en décembre, alors c'est quelque chose qui nous avait échappé, le ministère de la Justice américain avait publié un mémorandum d'avocats demandant de permettre aux Amérindiens de cultiver et de vendre du cannabis sur leurs propres terres, même dans les États qui ne le permettent pas. Donc voilà. Voilà, on va écouter un petit peu de musique et puis tout de suite après, eh bien, on va s'intéresser au reste de l'actu. On va parler un petit peu de Serge Atlaoui. Vous verrez pourquoi c'est pas évident pour lui en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai lancé mon CD, mais ne part pas.
Stitch! I can.
On revient à l'antenne. Voilà, on vient de s'écouter Funky Demagogue de Urban Dance Squad. Voilà, tout de suite, on repart dans l'actualité. Donc, comme je vous disais avant cette petite coupure musicale, je vous parlais de Serge Atlaoui, dont on avait parlé fin avril, début mai. Serge Atlaoui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce Français qui est soudeur de profession, qui est parti en Indonésie pour rendre service à un ami qui avait besoin d'un professionnel qui fasse des soudures dans une enceinte industrielle. Donc ce qu'il a fait, il est parti là-bas. Et peu de temps après son arrivée, il s'est retrouvé interpellé et arrêté parce qu'on lui a appris, hein, lui il ne le savait pas, qu'il était en fait dans un laboratoire clandestin qui fabriquait des amphétamines. Et Serge Atlaoui, 51 ans, voilà, et depuis, alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a plusieurs années. En tout cas, il est dans le couloir de la mort indonésien. Il s'est vu signifier, voilà, la peine de mort en fait il y a quelque temps. Et fin avril, déjà il était question de que la justice indonésienne procède à son exécution. Donc aujourd'hui, normalement, il devait y avoir une décision qui devait être rendue le concernant. Faut savoir que dans cette affaire, ses défenseurs, ses avocats tentent bien évidemment toutes les possibilités judiciaires qui existent là-bas en Indonésie pour déjà retarder au maximum son exécution et, si possible, la faire modifier et en tout cas changer tout ça. Alors, on se rappelle de Michael Blanc, on y fait souvent référence. Michael Blanc, qui est un autre Français qui avait été interpellé en 99. À Bali, avec soi-disant 2 kilos de hashish dans ses bouteilles de plongée, qui avait d'abord été condamné à la peine de mort, puis finalement sa peine de prison avait été commuée en peine de prison à vie. Et finalement, à 20 ans, et il est sorti à peu près un an et demi, il est toujours retenu en Indonésie, il n'a pas le droit de quitter l'île, mais il n'est plus en détention. Donc peut-être que c'est ce qui peut arriver à Serge Atlaoui. Donc aujourd'hui, donc la cour administrative de Jakarta devait rendre sa décision, eh bien elle l'a rendue, elle a considéré qu'elle n'était pas compétente pour prendre en considération les arguments de la défense de Serge Atlaoui. Ça veut pas dire qu'il va être exécuté rapidement, mais en tout cas c'est un recours rejeté de plus. Alors, dans la loi indonésienne, aucun présumé coupable ne doit être exécuté séparément de des autres personnes qui sont dans la même affaire. Or, il était prévu que Serge Atlaoui soit exécuté avant les autres personnes, les autres protagonistes de l'affaire. Donc déjà, c'était en contradiction avec la loi indonésienne. Et ça avait été notamment critiqué et soulevé par Jack Lang, qui suit cette affaire. Il n'est pas le seul, hein. En tout cas on espère bien. En tout cas nous aussi on suit l'affaire Atlaoui au cirque et on demande également, on exige même des autorités indonésiennes qu'elles mettent fin à cette procédure et qu'elles le relaxent et qu'on mette un terme à ces procédures d'exécution. Qu'on mette un terme à la guerre à la drogue, puisqu'il s'agit de cette guerre à la drogue. Voilà, là, elle bat son plein en Indonésie. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont régulièrement exécutées là-bas. Voilà, donc on suit l'affaire. On en reparlera sans doute dans les prochains mois. Voilà. Autre nouvelle, plutôt meilleure, celle-là, même si elles sont pas comparables. Le parquet général, alors c'est une nouvelle de l'AFP du 18 juin, donc peut-être que Bertrand Rambaud, puisqu'il s'agit de lui, a été béni par Dja ce jour-là. Donc Bertrand Rambaud, en tout cas, le parquet général de Colmar, voilà, a préconisé jeudi dernier, donc 18 juin, que soit donc condamné Bertrand Rambaud, mais dispensé de peine. Alors Bertrand Rambaud, il a 54 ans, il était jugé en appel. Parce qu'il consomme du cannabis à des fins médicales. Bertrand Rambaud fait partie de l'UFCMED, l'Union française des cannabinoïdes en médecine. La Cour d'appel rendra ses décisions le 10 septembre, donc d'ici 3 mois. Mais déjà, voilà, le parquet général a dit que, en tout cas, il ne va pas préconiser la condamnation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, le parquet de Strasbourg en première instance avait requis une peine de 3 mois avec sursis. Bertrand Rambaud, lui, dit qu'il ne consomme pas pour des raisons récréatives, mais pour des raisons thérapeutiques. C'est quand même quelqu'un qui vit avec le VIH, qui prend des multithérapies, qui a des douleurs et que du coup, il a aussi une hépatite, donc il est co-infecté. Il dit qu'il consomme du cannabis pour soulager des douleurs inimaginables dues aux effets secondaires de son traitement contre donc le VIH et l'hépatite. Donc lors de l'audience d'appel jeudi dernier, le représentant du parquet avait estimé lui que la relaxe n'était pas envisageable. Donc vous voyez un peu les guéguerres dans la magistrature. Du côté, il y a un parquet, le parquet général lui, il préconise une relaxe, une condamnation sans peine. C'est toujours le procureur qui préconise la même chose, mais en tout cas il estime que la relax n'est pas envisageable. Et pour les arguments, honnêtement, ça fait un peu rire jaune, certes. Il dit que Monsieur Rambaud ne courrait pas un danger imminent s'il arrêtait de consommer du cannabis, et que donc il ne peut se prévaloir d'un état de nécessité pour enfreindre la loi. En fait, il faudrait que Bertrand Rambaud donc arrête de consommer du cannabis, qu'il se retrouve dans un état de santé déplorable, pour qu'il puisse continuer à consommer du cannabis à des fins médicales. Et dès qu'il va mieux, il ne peut plus en consommer. Voilà, donc c'est complètement absurde. C'est absurde parce que la loi est mal faite, et bon, on va pas blâmer les magistrats non plus. Ils essayent de composer avec tout ça. Ils se rendent bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec le cannabis, tout simplement, qui sont pas spécialement des délinquants, voire pas du tout, et que en tout cas on peut pas se permettre d'appliquer la loi telle quelle, puisque si on applique la loi telle quelle, normalement c'est un an de prison. Un an de prison ferme pour simple usage. Et Bertrand Rambaud est aussi un cultivateur. Ils en avaient parlé lors d'une affaire précédente. Et si on applique la loi, il risque 20 ans de prison. Donc bon, on voit bien que la loi n'est pas adaptée. Voilà. Alors, après cette bonne nouvelle, on va parler un petit peu de l'appel du 18 juin qui a été, je dirais, relativement peu couvert par la presse cette année. Alors ça dépend, il y a des années où c'est mieux couvert que d'autres. Des années, l'appel du 18 juin n'est pas évoqué dans les médias. On parle surtout de la marche mondiale du cannabis. D'autres années, c'est l'inverse. Donc cette année, bon, il y a eu plutôt une assez bonne couverture médiatique pour la marche mondiale du cannabis. Pour l'appel du 18 juin cette année, c'est un peu moins formidable. Alors deux articles, en tout cas cette semaine. Un article de RTL.fr et un article pauvre petit article du Figaro. Donc ça, c'est vraiment pour l'appel du 18 juin stricto sensu. Sinon, Libération nous a fait sa couverture, sa couverture arrière de Libé nous a mis notre camarade Farid Guéwesh, qui est président de Cannabis Sans Frontières. Donc voilà, mais pour l'instant, rien de plus. Un de plus. Alors bon, on va voir un peu ce qui se dit au niveau de l'appel du 18 juin. Alors pour RTL.fr, on reprend le millier de personnes qui s'étaient rassemblées jeudi dernier au parc de la Villette. 1000 personnes à Paris, c'est quand même pas mal. Bon, il y a un peu plus de monde d'habitude, alors un peu dommage. Donc ce millier de personnes s'étaient rassemblées pour réclamer, comme chaque année, la dépénalisation de l'usage du cannabis lors du traditionnel appel du 18 juin organisé par le Cirque. Relancé à l'origine par Libération 76, relancé par le Cirque en 93, depuis chaque année, le 18 juin à 18h, on se retrouve pour réclamer la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues et la légalisation de la production, de la distribution du cannabis. Voilà ce qu'a pu expliquer Jean-Pierre Galland, fondateur du Cirque, au milieu des fumeurs rassemblés sur la pelouse au parc de la Villette. Donc RTL qui a été quand même un peu plus précis que le Figaro. Alors le Figaro... Je sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est, à mon avis, c'est pas volontaire, mais bon. Là, le Figaro, quand même, .fr, nous a quand même parlé de l'appel du 19 juin. J'avais jamais vu ça, et oui, vous avez bien entendu. Le Figaro.fr du 18 juin, donc, nous a parlé de l'appel du 19 juin, pour après, plus tard, nous dire que c'était le 18 juin à 18h. Bon. C'est. Ça fait un peu rigoler quand même. C'est pas bien sérieux. Une autre personne, je pense que c'est Jean-Pierre aussi qui disait, voilà, on pensait qu'en l'an 2000, l'usage du cannabis serait dépénalisé. Mais force est de constater que le débat est bloqué en France. Alors que, rappelle-t-il, plusieurs États américains ont récemment légalisé la consommation, certains uniquement pour usage thérapeutique, d'autres récréatifs, on le sait. Et l'Uruguay a autorisé également depuis 2013 la culture de cannabis à titre personnel au sein d'un club et également, d'un point de vue thérapeutique, ça devrait suivre rapidement. Alors, on demande toujours l'ouverture d'un débat. Là, c'est Farid qui s'y colle. Farid et pas Farif. Donc, beaucoup de fautes de frappe chez ces journalistes. Je ne sais pas s'ils sont venus à l'appel du 18 juin. Je ne sais pas s'ils ont fait un peu de dégustation, mais en tout cas, ils n'ont pas été très très rigoureux sur leur clavier par la suite. Donc Farid, fondateur de Cannabis Sans Frontières, en France, les gens observent ce qui se passe à l'étranger et attendent. Mais il n'y a aucune traduction politique. On aimerait que le gouvernement essaie au moins d'ouvrir le débat et organise par exemple des états généraux des conduites addictives. D'autant que de nombreux usagers sont régulièrement interpellés pour consommation, possession, production, revente ou incitation à la consommation. L'usage du cannabis est passible d'un an de prison et 3 550 € d'amende. Dans la pratique, la majorité écope d'amende. Sauf certains, il y en a qui se retrouvent toujours en prison. Et c'est pour ça que le cirque s'associe à cette campagne guerre aux drogues, guerre raciale, parce que il y en a beaucoup, eux, ils prennent pas d'amende, ils se retrouvent en prison et c'est toujours les mêmes. Alors ensuite, dans l'article, on nous rappelle voilà, que le cannabis est le produit illicite le plus consommé en France, expérimenté au moins une fois dans leur vie par 4 personnes sur 10 chez les 18-64 ans, selon le baromètre Santé 2014. Mais, précise Cachou, porte-parole du cirque, l'usage problématique de cannabis ne concerne qu'une petite partie des usagers. Aujourd'hui, on interdit l'accès à des produits naturels comme le cannabis, mais on laisse passer des cannabinoïdes de synthèse, des substances qui peuvent avoir des impacts graves sur la santé, souligne Farid. Quant au cannabis thérapeutique, Fabienne Lopez, qui fait partie de Principe Actif, dit bah, « il n'y a pas d'évolution non plus ». On attend toujours la mise en vente du Sativex et si vous vous rappelez la semaine dernière ce dont on parlait, ben il faut que la commission économique de la CPM, je crois, se mette d'accord sur le prix d'achat du Sativex. Le vendeur et le comment dire la France n'arrivent pas à se mettre d'accord pour un prix d'achat. Donc c'est finalement un problème administratif à l'heure actuelle qui bloque l'accès au Sativex. Donc on espère que ça va se débloquer dans les prochains mois. Fabienne rajoute et souligne que le cannabis coûte beaucoup moins cher que les traitements coûteux que doivent prendre de nombreux malades. En tout cas, aux États-Unis, sont en train d'en faire l'essai. Et ils s'aperçoivent que des fois, il vaut mieux donner des cannabinoïdes ou des médicaments à base de cannabinoïdes que de prescrire des produits comme de la morphine. Voilà. Bon, après, on est tous différents hein, au niveau des produits, des sensations. Ça peut marcher pour certains, pas forcément pour d'autres, mais en tout cas, voilà, il y a des pistes, des économies pourraient être réalisées, mais en France, bon, c'est pas possible. Voilà un peu pour le 18 juin, et je n'ai quasiment que ça à dire pour le 18 juin. Je vais vous parler un petit peu de Farid Guéwesh, un article de Libé, donc du 17 juin, de la veille, portrait. Le cofondateur de Cannabis Sans Frontières est persuadé que la France finira, comme d'autres pays, par légaliser cette drogue douce. Et on l'espère bien. Donc, portrait de Farid, hein, je ne veux pas non plus passer une heure dessus, surtout que c'est quand même quelque chose sur sa vie personnelle. Donc, bon, c'est pas non plus d'un point de vue politique super important, super intéressant. Mais un sacré parcours, le Farid quand même. Donc, Farid qui tient la librairie Lady Long Solo, rue Keller à Paris, dans le 11e arrondissement. Pas très loin, apprend-on dans cet article. Pas très loin de d'où vit Manuel Valls, voilà. Ce qui peut paraître un peu surprenant, mais apparemment ils sont voisins. Voilà. Donc, Farid qui nous explique que voilà, il a commencé à fumer du cannabis, il était assez jeune, il est devenu un peu punk, il est parti apprendre à militer dans des groupes, des organisations libertaires. Il a participé à des réunions au Pays Basque, en Espagne. Il a participé à des groupes et à la pédagogie de la non-violence au Quin du Larzac. Il était punk, après il est devenu un peu plutôt rasta avec des dreadlocks. Pendant les grèves de 95, il a déménagé à Paris, rue de Tombouctou, dans un immeuble où l'on vit en communauté. Voilà, il y est resté plusieurs années. Donc voilà, il est le fils d'un père algérien et d'une mère française. Il a vécu un peu entre Bourg-en-Bresse, Coligny. Après un peu, il est revenu à Paris. Donc comme on l'a dit, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà. Bon bah, ses propos, on les connaît. Hein, c'est un peu aussi toutes les idées qu'on défend au cirque ou avec Cannabis sans frontières. Donc il parle de la légalisation, que ce serait retirer une partie de la manne au crime organisé pour pouvoir taxer et remplir les caisses de l'État et aussi réduire les risques, bien évidemment. Il rappelle bien évidemment aussi avec Libé que la guerre est un échec. Avec Libé, parce qu'en 91, Libé avait titré un gros article là-dessus, « La guerre aux drogues est un échec », alors que c'était Libé hein, qui avait lancé l'appel du 18 juin en 76. Voilà, donc bon, pas en dire beaucoup plus, on va écouter un peu de musique avant de repartir dans l'actu. Voilà, si ça vous intéresse, donc libération.fr du 17 juin, un portrait de Farid Guewesh, H de raison. Voilà, c'est pas souvent qu'un Ken activiste a la possibilité d'avoir un portrait dans Libé. Voilà, et notamment une partie où il parle un peu de sa femme qui a des problèmes de sclérose en plaques. Et qui visiblement ne s'intéresse pas au cannabis pour se soigner, c'est un paradoxe, mais bon, ça peut arriver. Voilà, eh bien, allez, un peu de musique, on va s'écouter un peu de rumeur tout de suite.
Bienvenue dans ce monde ivre, au milieu des rondes de nuit, sa race, qu'elle me suivra la trace, repéra parmi cent, quand la musique de mes semblables s'entasse dans la boîte à gants, quelques rayures sur mon fer, ne l'empêcheront pas de rouler, toi qui n'as rien trouvé de plus intelligent à faire. Bienvenue dans ce monde ivre, là où il va falloir me suivre, en stress j'en conviens, ici les feux de détresse ne sont jamais éteints, étonnamment serein, malgré le cheminement des douilles et des embrouilles d'un autre degré, 25 plaques sur jantes rutilantes, cousin, je ne jugerai parce que tu claques et où tu le planques pour remonter la pente sans les moindres pépins. Paris aussi me nourrit de ce qui brille et ma femme, moi et ma famille avec ce que je crame, à brûler des toxines parfois en bitumant pour recracher la nicotine des pots d'échappement.
Bienvenue dans ce monde ivre, respire et fais ton testament. Dis à cette connasse de vie, vas-y on reste amant. Devant la faute du squelette, y'a plus de place pour les désistements et les fossoyeurs creusent constamment. Paris pollué, avec du pu dans les artères, j'ai vu son putain de cancer évoluer dans ses poches trouées. C'est subutex, cherche pas à trouver d'où vient la saleté du texte, inspiré du contexte qui pue l'hostilité, la criminalité. Bienvenue dans ce monde ivre, Paris nous gave et nous prive sur chacune de ses rives. Soit tu restes une épave, soit tu vis sur le qui-vive. Sais-tu à quoi on se livre pour essayer de survivre jusqu'au signal quand résonnent les tambours et les cuivres, puisqu'ici dans la zone tous les jours ça arrive. Et malgré tout nos chromosomes récidivent, tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités de Rhône peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre, tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités de Rhône peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre.
Paris nous nourrit jusqu'à la gueule, je ne suis pas le seul. Les bouches pleines se retiennent ou bien des gueules. Et à l'accueil, les serpillères se dévoilent faibles, en quête de quoi rassasier leur soif du bout des lèvres. Paris crève, Paris affame aussi. Paris rejette les affamés de la nuit. Remontrance musclée, remettre les ecchymoses droites. Les palaves sont retaillées, les genoux se déboîtent. 10 marques, un gain vie en retour. On charcle les potes, une cicatrice fait le tour. Tout le monde court et peu de perspectives. Une clé de bras est bienvenue dans ce monde ivre.
De ce côté-ci, Paris regorge de cash pleine. Sale comme cet énorme égout qu'on appelle la Seine. Faire son trou en se palpant le pouls. Sous les jupons de laine de cette putain mondaine, sans même lui bouffer la couenne. Que du bon engrais pour ma graine de schizophrène. Paris me pousse sous le crâne, Paname nous affame. Nous épluche des poches à l'os, des couilles à l'âme. Dans l'urine ou l'urée et le chômage de longue durée. Ces rejets de fumée, n'oublie jamais de parfumer. Les vies au rabais à dégager vers ses couronnes. En 3, 4, 5e, 6e zone. C'est comme ça qu'elle traite son arthrose et ses névroses. Qu'elle paye son potum, son crack, son valium. Paris me colle au cul, me coule au cœur comme un cholestérol fumeur. Et pourtant j'en ai pincé à ces rares heures où cette salope fut comme une sœur.
Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités de Rhône peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre. Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités de Rhône peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre.
C'était La Rumeur, groupe hip-hop français que je vous conseille vraiment, vraiment, parce que voilà, c'est, j'espère que vous avez aimé, mais en tout cas, c'est un super groupe et voilà, le hip-hop français, c'est pas que des je sais pas comment dire, enfin, ils sont souvent stigmatisés, critiqués, ceux qui font du rap en France, mais il y a aussi des gens qui font du rap, qui disent des choses intéressantes et tout, et voilà, c'est tout. Je vais faire une petite dédicace. À La Rumeur, j'espère qu'on repassera un autre morceau, peut-être dans la soirée ou en tout cas un autre jour. Voilà, donc on va continuer notre revue de presse. Alors avant de parler de Jean-Vincent Placé qui s'est dit plutôt en faveur d'un changement de la loi, d'une dépénalisation, je crois, d'une légalisation contrôlée, Avant de parler de deux articles, un de l'Express et un du Monde qui nous parlent du boom de la culture domestique, Le Monde, les jardins secrets du cannabis, l'Express, cannabis à la ferme, le boom de la production locale. On va s'intéresser à des aspects un peu juridiques et plus particulièrement au niveau de la conduite sous l'empire de stupéfiants. Il faut en parler. Pourquoi ? Parce que il faut savoir plusieurs choses. Déjà, on arrive en pleine période estivale. Donc il va y avoir des concerts, des festivals, tout un tas de musiques vont être jouées dans tout un tas de contextes, en extérieur, en sous-chapiteau, bref, ça va être la fête et tant mieux. Et c'est très populaire, beaucoup de monde se rend dans ces soirées, on y fait bien la fête, on boit bien et on fait pas que boire de l'alcool qui est une drogue licite, bon, il pourrait y avoir des contrôles d'alcoolémie, mais on va aussi, il y a certainement des jeunes qui vont fumer du cannabis, qui vont peut-être prendre d'autres substances. Et il faut savoir que depuis 2005, la France contrôle la consommation de stupéfiants lorsque vous êtes derrière un volant ou derrière le guidon de votre moto. Et donc voilà, pas mal de chemin a été parcouru. Alors, faut quand même savoir qu'il y a une loi cadre qui date de 2003, la loi qui permet justement d'incriminer un usager qui a fait, qui est l'auteur ou qui est responsable ou qui est impliqué dans un accident de la circulation et qui sur qui on détecte du cannabis. Donc depuis 2003, les premiers tests salivaires expérimentaux ont été lancés en 2005. Puis c'est vraiment complètement rentré dans la pratique policière, on va dire en 2010-2011. Et jusqu'à présent, voilà comment ça se pratique. En gros, vous êtes interpellé, on vous demande de faire un test salivaire, voire des fois un deuxième pour confirmer le premier. En tout cas, il faut à un moment faire un prélèvement sanguin. Puisque au niveau de la loi en France, c'est le sang qui vaut, en tout cas pour devant la justice. Voilà. Alors ça va changer. Actuellement, les autorités sont en train de mettre en place des expérimentations dans différents départements de France afin de remplacer ce test sanguin par un second test salivaire qui ferait donc foi devant la justice. Donc pour l'instant, c'est encore pas le cas, mais ça ne devrait plus tarder pour une raison simple, hein, c'est que si on fait un prélèvement sanguin, il faut impliquer pas seulement les forces de police, mais aussi des médecins. Voilà, ça coûte de l'argent, et ben comme vous le savez, nos gouvernants veulent faire des économies budgétaires. Et en tout cas, ils vont essayer de le faire de cette manière. Voilà. Alors là, c'est un article qui nous vient de jurytravail.com. Voilà. Conduite sous stupéfiant, la contre-expertise. C'est un article qui est écrit par Vanessa Fitoussi, qui est avocate. Conduite sous l'empire des stupéfiants, pourquoi la contre-expertise ? Donc je vais vous lire l'article, je vais vous le dire en entier, parce que c'est intéressant ce qui se dit, et peut-être que vous pouvez être concerné. Si c'est le cas, vous pouvez aussi appeler le cirque, alors je le dirai à la fin de l'article. Le délit de conduite sous l'empire de stupéfiants est sanctionné sévèrement en droit pénal routier français. Il est sanctionné sévèrement au regard de ses règles de procédure et de son fondement, puisque toute personne ayant consommé des stupéfiants, même à 3-4 semaines avant le jour où elle est interpellée, peut être poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état de stupéfiant, dès lors qu'il sera retrouvé des traces du produit stupéfiant suite à l'analyse toxicologique qui sera opérée, à savoir la prise de sang. Donc on en est toujours là aujourd'hui. Nombreux de mes clients se font donc surprendre par un dépistage positif, alors qu'ils sont parfaitement à même de conduire et qu'ils ne sont absolument pas dans une situation de perte de discernement, et que la consommation de cannabis peut résulter d'une soirée tout à fait occasionnelle et très éloignée du jour de l'interpellation. Dans ce contexte particulier, lorsque, comme toujours, la perte des points liée à l'infraction peut avoir des conséquences dramatiques pour le conducteur, il est essentiel de se défendre, de ne pas se résigner aux poursuites de conduite du fait de stupéfiants. Donc sur les poursuites, la conduite sous l'empire des stupéfiants ressemble aux règles qui s'appliquent en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Pour autant, la jurisprudence a établi quelques différences de même que les textes. Le fondement de la similitude repose sur le fait que l'analyse toxicologique est seule à même de faire condamner le prévenu. Il ne peut pas y avoir de faisceau d'indices faisant penser à un état de consommation. Il ne peut pas y avoir de faisceau d'indices. Donc c'est où il y en a, où il n'y en a pas. Seule une prise de sang positive dans laquelle seront révélés les taux de THC et THC-COOH. Rappelez-vous bien de ce THC-COOH. Donc, dès lors que sont révélés des taux de THC et THC-COOH conséquents, permettra la mise en place des poursuites. Le délit est sévèrement réprimé. L'usage de stupéfiants au volant entraîne des poursuites. L'usage de stupéfiants, le fait de refuser de se soumettre aux vérifications, sont passibles des peines suivantes. 2 ans d'emprisonnement et amende d'un montant de 4 500 €. Et retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis, à savoir 6 points. Le titulaire d'un permis de conduire probatoire voit donc son permis invalidé par perte totale des points. Les peines sont majorées si le test relève également l'empire d'un état alcoolique. Des peines complémentaires peuvent être prescrites. Suspension ou annulation du permis de conduire, travaux d'intérêt général. Le délit entraîne également la perte de 6 points sur le permis de conduire. Enfin, la conduite sous l'empire de stupéfiants est analysée en termes de récidive à l'équivalent d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui signifie qu'en cas de récidive conduite sous l'empire de stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les deux donc, l'annulation judiciaire du permis de conduire sera prononcée de plein droit. C'est donc dans ce contexte de sévérité qu'il convient de faire valoir les moyens. Or, l'argument essentiel repose sur les modalités de contrôle de la prise de sang. En matière de stupéfiants, comme en matière d'alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de 2 contrôles. Je vois que ça clignote à côté de moi, on est en train de m'appeler. Quand je suis à la parole, je ne peux pas vous répondre. Voilà, si vous pouvez m'appeler au moment de la pause musicale, ça sera un peu plus simple. Là, je ne peux pas faire les deux. Ensuite, la contre-expertise. En matière d'alcool, il est bien connu du grand public l'obligation de demander 2 souffles. De la même manière, en matière de prise de sang relevant l'existence ou non de produits stupéfiants, il y a possibilité de demander une contre-expertise. Libre à l'intéressé de demander cette contre-expertise ou pas. Il peut y renoncer et ce sera expressément mentionné dans la procédure, mais il doit avoir été en mesure de le faire. En ce sens, la jurisprudence de la Cour de cassation est également favorable au conducteur, puisqu'un arrêt très récent de la chambre criminelle vient de rappeler qu'il n'y a pas de délai légal pour demander cette fameuse contre-expertise. C'est très intéressant tout ça. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le délai légal est de 5 jours pour demander une contre-expertise dans l'hypothèse où les traces d'alcool seront retrouvées dans le sang. 5 jours à compter de la notification. Or, en matière de stupéfiants, il n'y a pas de délai légal. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 21 janvier 2015. Une exception de nullité avait été soulevée par le prévenu, pris en violation des articles R235-4 et suivants du Code de la route, en ce que la fiche F retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants, et le cas échéant de la recherche de médicaments psychotiques, ne mentionnait pas le prélèvement du deuxième flacon, mais ne mentionnait que le prélèvement d'un seul flacon. La Cour a alors jugé que devait être infirmé le jugement, qui peut rejeter la demande d'expertise de contrôle formée par le prévenu en application de l'article R235-11 du Code de la route. L'arrêt attaqué retient qu'elle était tardive et qu'elle ne pouvait pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification. En l'espèce, le prévenu avait présenté tardivement sa demande de contre-expertise. Il n'en demeure pas moins qu'un deuxième flacon devait être mis à la disposition du prévenu. Le deuxième flacon devait faire l'objet d'une contre-expertise. À défaut de présenter ce deuxième flacon, la procédure en l'espèce a été considérée comme nulle et le contrôle pas suffisamment probant pour poursuivre la personne prise pour conduite sous l'empire de stupéfiants. C'est donc essentiellement autour de cette notification des résultats de la prise de sang, de la notification et des éventuelles nullités. Il est donc essentiel de faire appel à un avocat spécialisé en la matière pour vérifier la procédure, vérifier la manière dont la prise de sang a été effectuée, la qualité des résultats qu'elle fournit et surtout la possibilité ou non de la faire contre-expertiser. Reste un problème pratique. En cas de demande trop tardive, l'échantillon sera-t-il conservé par le laboratoire ? Pourra-t-il faire l'objet d'une contre-expertise alors qu'il n'est plus à la disposition du parquet ? Il est évident que plus la demande de cette contre-expertise sera formulée tardivement par rapport à la date des faits, plus les risques sont réels de ne plus pouvoir retrouver ce fameux second flacon. Dans cette hypothèse, la procédure sera déclarée irrégulière puisque le prévenu n'est pas en mesure de contester la légalité de la prise de sang. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu technique, je ne sais pas si vous avez tout retenu, c'est pas évident du tout. Donc je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site internet www.jurytravailtoutattaché.com /actualité/alcool-drogue/LD/209741. Voilà, bon, je pense que si vous allez sur le site jurytravail.com, il y a certainement un bouton, un truc recherche, vous tapez conduite sous stupéfiant, la contre-expertise. C'est un article du 20 mai 2015, donc qui date d'à peu près un mois. Honnêtement, je vous invite vraiment à vous documenter par rapport à tout ça. Il y a énormément de personnes qui contactent le cirque et qui se font attraper avec un test salivaire, qui ne savent pas comment faire, qui souvent s'y prennent un peu tard et n'ont pas pris d'avocat. Il faut aller assez vite. On voit dans cette histoire qu'il y a des histoires d'expertise, de flacons, d'analyse. Donc voilà, il faut pas le prendre à la légère. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui m'écoutent là, qui se disent mais enfin comment ça se fait, on peut pas condamner quelqu'un alors qu'il n'est pas sous l'empire du produit, même s'il y a des traces. Ben si, malheureusement c'est possible dans la loi française. C'est possible, donc le THCCOH en fait ça ne révèle que l'existence d'une trace ancienne dans l'organisme. Ça ne révèle pas que l'automobiliste conduisait sous l'influence du produit, mais ça révèle qu'il a une trace, du coup ça révèle qu'il consomme en fait, et du coup voilà, c'est une loi qui permet qui ne permet pas de lutter pour la sécurité routière, mais qui permet surtout de lutter contre l'usage du cannabis tout simplement. Et donc voilà, il faut savoir se défendre. Je vous invite à visiter le site internet du Cirque Lyon à la partie contact. Il y a des informations à ce sujet. Je vous invite également à prendre contact avec nous rapidement si vous avez des problèmes avec un dépistage salivaire. On connaît quelques avocats qui sont pas forcément spécialisés sur le droit du cannabis, mais qui sont de bons pénalistes et qui vous défendront tout simplement correctement et qui en plus acceptent l'aide juridictionnelle. Voilà, donc il faut juste savoir se défendre. Allez, encore un petit peu de musique avant de terminer cette émission. On va s'écouter quoi ? On va s'écouter un petit Cypress Hill, allez, à tout de suite.
Well, started way back when I was a teen. In the hood, on the corner, slanging dope to fiends. Had a little stash that could serve your need. You can do what you want, but I got weed for me. Grinding for my fam, trying to hit the grand. Crash unit on my ass, now I'm in demand. One lonely family I be. All in the hood, I got nobody. The sun is beating down on my red golf hat. Pigs are roaming through the alley, so I gotta cross my gap. Forgot about the sack, looking for a place to hide. If they ask me for my name, fuck them, I'm a lie. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope and hash. He said a little something, I wasn't so impressed. No more running, homie, now you're under arrest. The sack was in my hand, felt like a sack of bricks. I swore he couldn't see it when I threw it in my whip. He said he wanted some, I said I don't have none. Found it in the sun, on the floor next to my gun. Next thing I saw were the guns to my head. Now the lead will make me dead, and yo, this is what he said. My name is Sergeant Slacker with a license to kill. I think you know what time it is, it's time to get real. Now what do we have here? A banger and his peers. He cuffed my hand, you understand, he threatened me with tears. Sorry, motherfucker, had his gun out with a grin. You think the story's over, but it's ready to begin. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope and hash.
Now I got you cracking most of your crew. You got a couple choices of what you can do. Better make the right decision if you know what I mean. You can't do some time or fork over your green.
I said I got no green, he started looking at me harder. I said I don't have nothing, you can go fuck your daughter. What? He hit me with the fist, he hit me with the gat. He put the nightstick to my back. Damn. So I think I'm done, the pig's got my gun. It isn't looking good, I got ink on my thumb. Another pig walked in, said he's playing games. He gave another look at me, found out my false Sorry, name.
One
OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope and hash. Sitting there pissed as I dwell in my cell. The place smells like shit in the county jail. Homie looking at me like you seen me before. He started throwing up a set, then he spit on the floor. I think, hey, yeah, yo, I know this kid. It's the same motherfucker cocktail. My crib, this dude said, get ready. Pulled the shank on me. I said, come on, homie, you a bit too sloppy. Fool tried to stab me, socked him in the eye. The guards yelled, give it up, and let two fly. The guards sat down and we hit the floor. If you make a move after, you won't move no more. He said, I see you once again, best protect your neck. I said, eat a dick from me, you don't get respect. I said, you wanna come with it anytime and place. And I'll leave you like Pacino with a scar on your face. They put him in the hole, and all the bullshit stopped. But when this boy had beef, yeah, he got dropped. PD had no witness, DA dropped the load. I got probation for the gun and the dope case closed. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope and hash. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des lycéens qui ont oublié un joint de marijuana. Il faut qu'on le foute en l'air, imagine que des enfants le trouvent.
Alors jetez-le.
Ok, nous y toucher.
Ouais, parce que si on s'en met sur les mains, ça nous conduira aux drogues dures, ils l'ont dit à la télé.
Ouais, t'as pas vu la pub où ils disent que si on fume des joints, on devient des terroristes?
Et ça nous voit deux enfants qui fument et à la fin, il y en a un qui tue l'autre. Ça fait peur.
Cannabis Circus.
Et oui, on sait jamais ce qui peut arriver quand on touche un peu de marijuana. En tout cas, aux États-Unis. Quand même des choses qui ont changé ces derniers mois, et notamment dans certains États où on n'a pas mis en place la légalisation pour les aspects récréatifs. Par contre, au niveau thérapeutique, il y a déjà des choses qui marchent, et quand même dans 23 États depuis 1996, ainsi que dans le district de Columbia, Washington, on a légalisé le cannabis thérapeutique, et même dans le district de Columbia, Washington DC, on a dépénalisé la possession de moins d'une once, c'est-à-dire 28 grammes de cannabis. Donc toutes ces nouvelles législations ont provoqué des craintes quant aux effets, et notamment pourrait avoir une plus grande sur le fait qu'il pourrait y avoir une plus grande disponibilité de cannabis, par rapport notamment à la consommation des jeunes. Et là, d'après une étude publiée dans le Lancet Psychiatry et financée par le US National Institute on Drug Abuse, la légalisation du cannabis thérapeutique ne serait pas accompagnée d'une augmentation de la consommation de marijuana des adolescents. Voilà, en tout cas, dans 21 États américains étudiés par les auteurs. Donc, le docteur Deborah Hassin et ses collègues du département d'épidémiologie de l'école de santé publique de l'Université de Columbia à New York se sont appuyés sur une étude conduite tous les ans dans 400 écoles réparties dans l'ensemble des États-Unis auprès de jeunes de 13 à 14 ans et de 15 à 16 ans et de 17 à 18 ans. Et au cours de cette enquête, il est notamment demandé aux participants s'ils ont consommé du cannabis dans les 30 jours qui précèdent. Voilà, un peu comme sur le modèle des enquêtes qui sont faites pour les 3 jours d'appel à la Défense nationale. Bon, voilà. Les épidémiologistes ont ainsi réuni des informations concernant la consommation de cannabis de plus d'un million d'adolescents entre 1991 et 2014. Donc plus d'un million, c'est quand même une étude au niveau échantillon, c'est costaud. voilà. Alors aujourd'hui, le cannabis n'est même plus spécialement considéré comme transgressif. Ça paraît incroyable de dire ça, surtout vu de l'Hexagone. Mais en tout cas, c'est comme ça là-bas. C'est vrai que ça nous fait un peu marrer, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà, pendant les 24 ans étudiés, la consommation de cannabis était plus répandue dans les États qui ont, à un moment donné, adopté la légalisation du cannabis thérapeutique avec une prévalence de 15,87% contre 13,27% dans les autres États. Cependant, la consommation n'a pas significativement varié suite à la légalisation. 16,25%, donc 15,87 avant, en moyenne, avant que la loi soit votée, contre 15,45% après. Les auteurs précisent qu'ils ont tenu compte des évolutions des modes de consommation du cannabis au cours des 24 années concernées, ainsi que d'autres facteurs confondants, comme l'âge, l'ethnie et le type d'école. Les chercheurs rappellent également que la légalisation du cannabis pourrait modifier la perception de cette substance sur le plus long terme, ce qui nécessitera davantage d'investigations. La légère diminution observée après l'adoption des lois autorisant le cannabis thérapeutique pourrait être le signe que la consommation de cannabis n'est plus considérée comme un acte transgressif, notent les auteurs de l'étude. Le fait que les États qui ont légalisé la marijuana sont également ceux où les niveaux de consommation sont les plus élevés a également éveillé l'attention des auteurs. Il doit y avoir des facteurs de risque liés à ces états qui expliquent les deux phénomènes. Et enfin, dans un éditorial accompagnant l'étude, le docteur Kevin Hill, psychiatre addictologue dans le Massachusetts, estime qu'il y a désormais un ensemble de plus en plus important de preuves qui montrent que la légalisation du cannabis n'augmente pas la consommation des adolescents. Monsieur Valls, j'aimerais bien que vous entendiez ça un jour. Monsieur Cazeneuve aussi, Monsieur Sarkozy... Monsieur, messieurs, enfin bon, ils sont tellement nombreux, mais ils nous écoutent pas, bien évidemment. Et en tout cas, ils écoutent personne, hein, surtout sur ce sujet-là. Ils sont omniscients, chacun le sait. Les décisions politiques concernant la légalisation du cannabis devraient au moins partiellement être guidées par ce genre de résultats. Voilà la conclusion de Kevin Hill, psychiatre addictologue dans le Massachusetts. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien. Alors il va pas nous rester beaucoup de temps, je préfère prendre ce temps en vous parlant de cet article du temps.ch du quotidien Helvète qui nous parle des clubs de cannabis uruguayens en première mondiale, mais juste avant je vais au moins vous reparler vite fait comme ça de ces deux articles qui sont pas super intéressants dans le fond. Un article de l'Express, cannabis à la ferme, le boom de la production locale. Un article du 19 juin, donc juste après, voilà, qui nous parle un peu de ces Français qui sont passés à l'autoproduction, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Bon, on nous parle aussi des petits trucs, des astuces qu'on peut trouver sur Internet. Moi, je vous mets en garde quand même sur les forums de discussion, sur certains sites, ou en tout cas, voilà, beaucoup de gens sont très, très, très peu prudents. Soyez prudents avec Internet. C'est pareil quand vous contactez le Cirque Lyon sur Facebook et que vous demandez où est-ce qu'on peut avoir du cannabis et si c'est bien au bon endroit qu'on s'adresse, c'est pas judicieux. Vous pouvez être sûr que là, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ben c'est pareil sur ces forums, ces sites de discussion. Si vous montrez des photos de vos productions, de vos pieds, vous mettez en photo à côté, ben après vous étonnez pas que la police un jour tape à votre porte. Donc voilà, il faut être prudent, il faut être discret. Un autre article du Monde, les jardins secrets du cannabis, qui parle un peu des mêmes choses, hein, en reprenant là des statistiques du rapport de l'OFDT et de l'OEDT aussi. Non, seulement de l'OFDT. Je vous dis n'importe quoi. Il ne parle pas du rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, juste celui de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cet article du Monde ? Eh bien, que voilà, il y a beaucoup d'individus qui cultivent du cannabis d'un point de vue purement amateur, thérapeutique, récréatif, voire thérapeutique. Mais qu'il y a quand même aussi quelques mafias qui se sont emparés du business, et notamment les mafias vietnamiennes. Voilà, on en avait déjà entendu parler il y a quelques années de tout ça. Je vous dis encore des bêtises. C'est dans l'Express qu'on parle des mafias vietnamiennes. Par contre, on parle des règlements de compte entre cultivateurs, cambrioleurs, voilà, qui cherchent, du moins qui ont senti ou qui ont découvert que quelqu'un d'autre cultivait du cannabis chez lui. Et voilà, du coup, ça donne lieu à des agressions, des attaques. Certains cultivateurs sont même contraints de dormir la nuit au milieu de leurs pieds de cannabis quand ils cultivent en extérieur. D'autres se font agresser chez eux. Voilà, non, c'est pas génial. En tout cas, une bonne légalisation, bien comme il faut, éviterait ce genre de choses. Et enfin, donc, pour terminer, il nous reste 4 minutes. On va partir un peu en Amérique latine avec cet article du temps.ch qui se penche sur la légalisation à l'uruguayenne. Ce qui se passe donc en Uruguay depuis à peu près un an et demi, on va dire. Bon, ça a été voté il y a un peu plus longtemps. Mais le temps que ça se mette en route... Il faut un peu de temps, et en tout cas, même si la loi a été votée en Uruguay, les choses ne vont pas de soi. Donc là, on reparle dans cet article du temps.ch de José Mujica, président de l'Uruguay pendant deux mandats. Non, qui était président à l'occasion d'un mandat, qui ne peut plus se représenter suite à son premier mandat, mais qui peut se représenter après. Donc José Mujica, qui a souhaité légaliser pour lutter contre le narcotrafic et mieux aider les usagers problématiques. Donc la légalisation se met en place très progressivement. Le président actuel, Tabaré Vázquez, qui a pris ses fonctions en mars dernier, est lui un médecin, connu pour sa lutte contre le tabagisme, mais face au cannabis, il entend bien prendre son temps. Voilà, la légalisation prend trois formes, nous explique le temps.ch. L'autoculture, soit la culture à domicile et à usage personnel, les clubs de cannabis et la vente en pharmacie. La première s'est mise en place rapidement sous l'ère Mujica et permet aux Uruguayens d'avoir 6 plantes en fleurs par foyer. La seconde a aussi avancé, à l'instar du club de Laura Blanco, le premier du genre, le premier cannabis social club. Ces associations de 45 personnes délèguent la culture de 99 plantes à l'un de leurs membres ou embauchent un jardinier. Il existe aujourd'hui 17 clubs qui suivent les processus un peu alambiqués, d'après les activistes, pour obtenir une certification. Les associations en question n'ont pas de but lucratif. Elles utilisent les $100 mensuels versés par leurs membres pour couvrir les coûts de production des 40 grammes qu'ils leur distribuent chaque mois. Et ces structures très encadrées ne ressemblent pas à des boutiques. Concrètement, une pièce munie d'un sofa doit faire l'affaire pour poser une dizaine de boîtes où s'empilent des petits sachets plastiques remplis de marijuana. Les plantes poussent sous une lumière artificielle dans une pièce contiguë. Eh oui, une petite asso, c'est un club, hein, c'est pas non plus un magasin. Ensuite, dans cet article, on a des témoignages de cannabinophiles. Par exemple, Maria Aguirre, la dernière fois que j'ai acheté de la marijuana à un dealer, confie-t-elle, il m'a donné gratuitement de la cocaïne alors que je n'en voulais pas. Ces gens incitent à la consommation, avec eux le risque de devenir accro à la cocaïne est élevé, dit-elle. Mais rien de tel en principe dans les clubs. Et puis, Maria et ses pairs sont unanimes. La marijuana de son association, fumée pure sans tabac, est d'une qualité bien supérieure à celle provenant du Paraguay, produit du narcotrafic, souvent coupé de nombreuses autres substances. Les membres du Cuatro 20, 4-21, ça veut dire 4-20, pardon, 4-20. Assure qu'on ne trouve presque plus de paraguayennes en Uruguay. Chaque consommateur, disent-ils, qui produit ou se fournit dans un club est un consommateur de moins à enrichir les narcotrafiquants. Lutter en régulant au lieu de faire la guerre aux narcos dans un bain de sang comme au Mexique semble porter ses fruits. Mais l'autre partie de l'argumentaire de José Mujica semble plus délicate à vérifier. Si le consommateur est identifié, nous pouvons l'influencer quand il abuse. Ce sont deux choses différentes, de fumer un joint et de sombrer dans le vice, là où plus personne ne te sort du pétrin. Voilà ce qu'avait déclaré Mujica au lendemain du vote au Congrès en 2013. Mais il reste encore à s'accorder sur de nombreux détails. Plusieurs associations de médecins ont manifesté leur désaccord sur la quantité de marijuana prévue par la loi. 40 grammes par personne pousserait à la surconsommation, assure-t-il. Alors, 40 grammes par personne, ça dépend pour combien de temps. C'est vrai que là, ils ne le disent pas. Une visite à un club de Montevideo tente à confirmer ce jugement. Trois jeunes qui se partagent les fameux 40 grammes assurent qu'une telle quantité ne leur suffit amplement pour fumer un petit peu tous les jours. Le développement le plus sensible du processus de légalisation est en cours, c'est-à-dire un appel d'offres a été lancé aux entreprises qui se chargeront à l'avenir de produire le cannabis pour la vente en pharmacie. Repoussée à de nombreuses reprises, cette initiative de l'ancien gouvernement a été ouvertement mise en doute par l'actuel président. Plus surprenant, plusieurs membres des clubs ne sont pas non plus tout à fait d'accord. Ils disent qu'il ne faudrait pas qu'obtenir du cannabis devienne trop facile. Faire partie d'un club ou cultiver des plantes suppose un certain effort et des contrôles. En revanche, n'importe qui peut aller en pharmacie sans réfléchir ou s'éduquer sur le produit, déclare Rodrigo, membre d'un club de Montevideo. Les sondages nationaux montrent que plus de la moitié de la population continue à s'opposer à cette loi qui sert de laboratoire aux pays voisins d'Amérique latine. Même les policiers ne sont pas toujours au courant ou n'ont toujours pas vraiment accepté la légalisation. Juan et Laura, dans cet article, pour finir, et les autres doivent leur rappeler fermement, désormais c'est légal à 100%. Donc voilà, il faut le temps que ça rentre dans les mœurs de tout un chacun, y compris dans celles des forces de police, puisqu'il faut quand même rappeler que la lutte contre les stupéfiants dans le monde, c'est l'une des activités policières majeures. Et que si on légalise, potentiellement, ça peut mettre beaucoup de policiers au chômage. Voilà, en tout cas, ça en inquiète, à mon avis, plus d'un. Voilà, il est 22h02, on va se quitter là-dessus. Je ne vois pas mon camarade chasseur de son. Il n'y aura peut-être pas d'émission ce soir, exceptionnellement. Donc c'est la fin de Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Le Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, dont le siège et l'adresse est à Villeurbanne, 69 605 Villeurbanne, CEDEX BP 93 043 Cirque Lyon. Voilà, je l'ai dit à l'envers, vous le remettrez à l'endroit. Vous pouvez également nous joindre par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez également visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr et vous pouvez également nous appeler au 06 11 53 10 07. Alors après le 18 juin, je vous rappelle que vendredi, ce sera la journée Support Don't Punish, journée internationale de soutien aux usagers de drogue. Support Don't Punish, toutes les informations sur le site du Cirque Lyon. Support Don't Punish, et sinon vous pourrez retrouver le cirque au mois de juillet au festival Zion Garden à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. On vous en reparlera tout au long du mois de juillet. Zion Garden, je crois que c'est 2 euros pour la semaine. Il faut devenir membre de l'association, donc c'est vraiment pas cher, 2 euros toute la semaine, des concerts reggae, dub, un village associatif, et le Cirque Lyon tiendra donc instant toute la semaine du 21 au 26 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie également tous les camarades qui ont participé à l'appel du 18 juin. Je remercie Breda Sound System et Zion High Foundation qui sont venus sonoriser l'événement jeudi dernier. Merci à eux, merci pour leurs good vibes et leur bonne humeur, et un big up à toute l'équipe. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine, au revoir.